conférences. Société, science, environnement, théologie, art ou histoire, des sujets de discussion sur Radio Alliance Plus.
Vous allez écouter une conférence de Didier Travier intitulée « Place de la théologie en Église ».
Bonjour à toutes et à tous d'abord. Il y a quelque chose d'un peu incongru et inconfortable aussi dans
mais non.
Situation dans laquelle on est, c'est de venir parler de théologie devant un parterre de théologiens quand on n'est pas soi-même théologien. Mais comme Michel Bertrand a vanté les vertus du décalage, alors on va parler de manière de théologie, peut-être de manière décalée, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui n'est pas un homme du métier de la théologie.
Bon, la théologie et la philosophie sont tellement voisines.
Et puis, comme l'a rappelé Pierre-Jean, il s'agit d'introduire, et je compte surtout sur ce qui suit après cette introduction. Donc le sujet tel qu'il figure dans l'invitation de Michel, donc c'est la place de la théologie dans la vie de l'Église. Et avant d'essayer de donner quelques éléments de réponse à cette question, je voudrais d'abord montrer en quoi la question se pose, c'est-à-dire en quoi cette place ne va en quelque sorte pas de soi. C'est-à-dire, je voudrais marquer finalement la différence entre les deux univers qui sont pointés par ces deux mots, théologie d'un côté et Église de l'autre. Théologie, dans théologie, il y a logie, et donc la théologie nous place dans le champ du logos, c'est-à-dire du discours. Voilà. La théologie, elle est un discours. On va dire un discours sur Dieu, comme la géologie est un discours sur la Terre, ou comme la sociologie est un discours sur la société. Et on peut dire quelque chose de plus, c'est que le logos grec, c'est pas seulement le discours, mais c'est aussi ce qui a donné la raison. Hein. Donc, c'est un discours, disons, qui ambitionne une certaine forme de rationalité. Alors, une certaine forme, hein, qui n'est pas la même que la rationalité des sciences dures ou la rationalité des sciences humaines. Mais on a un certain nombre de points communs. Le théologien va travailler, c'est en cela qu'il est parent du philosophe, effectivement, à élucider un certain nombre de notions ou de concepts. Il va travailler aussi dans un effort d'argumentation. Il va travailler aussi dans une perspective de systématicité, de mise en cohérence d'un corpus. Toute opération, opération de clarification conceptuelle, d'argumentation, de systématisation, qui sont les opérations ouvrières, disons, du savoir. Donc on se situe ici dans le champ du discours, d'une ambition de rationalité et dans le champ d'un certain savoir. L'Église, c'est tout autre chose. L'Église n'est pas une université où on enseigne la théologie. Elle est un lieu, le lieu de la foi, on va dire. C'est-à-dire le lieu où l'on exprime, où l'on entretient, où l'on suscite, on peut mettre plein de mots, la foi. Alors la foi aussi, elle a rapport à la parole. Elle a aussi rapport avec le logos, c'est-à-dire d'abord la foi, elle parle. On vient de le vivre à l'instant, elle parle dans les paroles de la liturgie et de la prière. Elle parle dans les paroles de la prédication. Et plus fondamentalement encore, Michel Bertrand l'a rappelé, elle répond à une parole qui la précède. Donc, la foi, elle est bien aussi dans l'ordre de la parole, mais cette parole de la foi, c'est-à-dire la parole prononcée par la foi ou la parole à laquelle la foi répond, n'est pas de l'ordre du logos d'un discours rationnel d'un savoir. Et donc, quelque part, la question qui est posée de la place de la théologie dans l'Église, c'est d'une certaine manière la question de l'articulation de deux paroles, de la parole du savoir théologique et de la parole de la foi, la parole parlée par la foi et la parole à laquelle répond la foi. Alors, j'ai dit, je vais commencer par marquer la différence entre ces deux univers. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble qu'il est important de ne pas intellectualiser la foi, c'est-à-dire de ne pas rabattre ces deux domaines l'un sur l'autre, celui de la foi et celui, disons, on va dire, du savoir, et de faire de la foi une sorte de sous-produit, en quelque sorte, du savoir. La foi, ça serait une forme dégradée de savoir. C'est ce qu'on dit quand on dit, voilà, il y a ce qu'on sait, et puis il y a ce qu'on ne sait pas, alors on y croit. C'est-à-dire que si j'ai des preuves pour quelque chose, on va dire, c'est du savoir, et puis si je crois quelque chose sans preuve, eh bien, ça sera de la croyance, ça sera de la foi. Et donc, la foi est une sorte de sous-produit, d'ersatz du savoir. Et cette approche-là, où on pense la foi sur le même champ, si vous voulez, que le savoir, mais comme forme dégradée du savoir, c'est celle à laquelle on aboutit quand on pense la foi en mettant l'accent sur la confession de foi. C'est-à-dire, la foi, ça serait de confesser un certain nombre d'articles de foi. Croire, ça serait énoncer un certain nombre de thèses, un certain nombre d'énoncés. Il y a un Dieu, Dieu a créé le monde, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est ressuscité, etc. Et énoncés qui ne sont pas justiciables d'une preuve par l'expérience ou d'une preuve argumentative, et donc qui font précisément l'objet d'une croyance. Eh bien, il me semble que cette définition, cette approche, cette manière d'aborder la foi en accordant un primat à la confession de foi, aux articles de foi, aux dogmes, si on veut, c'est, à mon sens, doublement erroné. C'est erroné, d'une part, du point de vue de la raison, c'est-à-dire que ça nous place dans une position qui est absurde. C'est-à-dire que si on n'a pas de raison de croire à quelque chose, pourquoi on y croit ? Si croire, c'est juste adhérer à des énoncés pour lesquels on n'a pas de preuves, on dit « mais pourquoi tu crois à ça plutôt qu'à son contraire ?» C'est-à-dire que l'attitude, me semble-t-il, raisonnable dans cette affaire, c'est l'attitude de l'agnosticisme ou du doute et pas celle de l'adhésion. Donc c'est un saut, évidemment ce saut de la foi, il est donc extrêmement périlleux sur le plan intellectuel, mais il me semble aussi, et c'est ce qui m'intéresse ici davantage, c'est qu'il est une manière, à mon avis, de perdre ce qu'est la foi en l'intellectualisant. C'est-à-dire que si la foi, ça consiste simplement à cocher un certain nombre de cases sur un sondage d'opinion, croyez-vous en Dieu ? Oui, non, ne se prononce pas. Croyez-vous au royaume de Dieu ? Oui, non, ne se prononce pas. Eh bien, j'allais dire, ça nous fait une belle jambe. Ça nous fait une aussi belle jambe que si le sondage portait « Croyez-vous aux extraterrestres ? Oui, non, ne se prononce pas. Croyez-vous à la télépathie ? Oui, non, ne se prononce pas. » C'est-à-dire que une foi comprise, justement, comme une forme dégradée du savoir, a quelque chose d'anecdotique, finalement, et de dérisoire, parce que c'est quelque chose qui n'a aucune signification et aucune action en profondeur sur notre existence. Il me semble donc qu'il faut ressaisir la foi avant la confession de foi. Voilà. Il faut ressaisir la foi avant la confession de foi, c'est-à-dire avant la déclinaison dans un certain nombre d'énoncés. J'ai été très intéressé, par exemple, à cet égard, par la lecture du théologien catholique Christophe Théobald, qui parle de la foi élémentaire, La foi, ce qu'il appelle la foi élémentaire, c'est cette foi, en quelque sorte, on pourrait dire pré-chrétienne, pré-dogmatique, qui est présente dans les évangiles quand Jésus dit à tel ou tel qu'il rencontre, « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est une foi sans confession de foi. Quand Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il n'y a pas de confession de foi, il n'y a en tout cas pas de confession de foi chrétienne. Donc il y a quelque chose ici, il me semble, qui nous dit l'essentiel de la foi dans cette foi élémentaire qui précède toute confession de foi. Alors cet essentiel, si je me risque à le nommer, je dirais pour moi, la foi, donc, elle n'est pas de l'ordre de l'adhésion à une thèse, ce qui la placerait donc, dans le champ du savoir, mais elle est de l'ordre de ce qu'Aristote appelle une exis, c'est-à-dire une disposition, une manière d'être qui conduit à une certaine manière d'agir. Donc, ça veut dire que la foi sans les œuvres est morte, parce que si la foi est manière d'être et disposition à agir, ça veut dire que sans l'action, il n'y a pas de foi. Cette manière d'être, cette disposition à agir, je la caractériserai, je lance ça pour le débat, je la caractériserai par rapport aux trois instances du temps, passé, présent, futur, comme une disposition vis-à-vis du passé à la reconnaissance. Avoir la foi, c'est à l'égard du passé, c'est une disposition à la reconnaissance ou à la gratitude. Par rapport au présent, je dirais avoir la foi, c'est une disposition de confiance. Et avoir la foi par rapport au futur, c'est une disposition d'espérance. C'est le encore dont il a été question. Et il me semble que ces trois termes, la reconnaissance, la confiance et l'espérance, sont finalement trois déclinaisons dans les trois instances du temps d'une même disposition fondamentale. Voilà. Donc, je marque et je vais après essayer, une fois que j'ai bien creusé le fossé entre les deux univers qui séparent l'univers de la théologie et l'univers de l'Église, j'essaierai de créer des passerelles, mais je voulais bien marquer ça. Alors si on veut mettre un nom là-dessus, on peut mettre le nom de Kierkegaard, c'est-à-dire Kierkegaard est bien le philosophe ou le théologien pour le coup, qui a marquer cette différence fondamentale entre l'univers de la foi et l'univers du savoir. Et il l'a fait en creusant la différence entre le subjectif et l'objectif. C'est-à-dire, la foi, c'est quelque chose de subjectif, au sens où c'est quelque chose qui engage le sujet. C'est quelque chose de l'ordre de la décision, de l'ordre d'un engagement qui engage toute l'existence. Un engagement dans lequel il y va de mon existence tout entière. Alors, dans le langage de Kierkegaard du 19e siècle, c'est il y va de mon salut. On dirait peut-être dans un langage plus moderne, il y va du sens et de la valeur de mon existence. Alors que le savoir est une connaissance objective des choses qui porte sur un objet extérieur à moi, hein, et donc qui ne m'implique pas et ne me concerne pas personnellement ou existentiellement. Et on peut être tout à fait théologien, et on peut être excellent théologien, sans être absolument, existentiellement, concerné par ce dont il est question. Je fais partie de la commission académique de l'Institut protestant de théologie, vous savez, qui est chargé d'auditionner les candidats qu'on recrute sur des postes de théologien. On recrute des candidats qui nous disent, voilà, très clairement, voilà, ils ont un CV totalement impressionnant, et ils disent, voilà, je suis athée. C'est-à-dire, on peut être. Chez Kierkegaard, d'ailleurs, on a des passages où Kierkegaard n'est pas loin de penser que la théologie, c'est une forme du divertissement, enfin, du divertissement au sens pascalien. C'est-à-dire, justement, on passe sa vie dans le concept théologique, on passe sa vie dans l'exégèse biblique, alors qu'il dit, justement, la décision de la foi, elle n'attend pas. Savoir si la finale de l'évangile de Jean, elle a été écrite avant, après, quand, etc., c'est une question scientifique, donc c'est une question ouverte, c'est une question ouverte à l'infini. Alors que dit Kierkegaard, évidemment, exister, c'est pas ouvert à l'infini, c'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant qu'il faut se décider. Et donc, j'allais dire, différer la décision dans l'atermoiement de la science, parce que la science, elle est toujours dans l'atermoiement, sinon elle n'est pas science, elle est toujours ouverte, elle est toujours prête. C'est justement une forme du divertissement au sens pascalien. Alors maintenant que j'ai bien creusé le fossé, je voudrais essayer d'établir donc des liens et dire donc en quoi la théologie, elle a sa place dans l'Église, c'est-à-dire en quoi elle peut entrer au service de la foi. Je le dirai, donc, je propose trois idées que je soumets à votre sagacité. La première, c'est que j'ai dit plus haut, il faut articuler la parole de la foi avec la parole théologique. Cette parole de la foi, donc la parole que parle la foi ou la parole que, à laquelle la foi écoute, c'est une parole qui vient de loin. Elle vient des Écritures. Elle vient après les Écritures de toute la tradition de l'Église. Mais pour nous, protestants, elle vient surtout des Écritures. Voilà, je dirais la première mission, donc, il me semble, la première vocation de la théologie par rapport à l'Église, c'est donc d'élucider la signification des paroles de la foi, c'est-à-dire d'élucider la signification des paroles de notre liturgie, des paroles de notre prédication, des paroles des textes bibliques. Donc pour nous protestants, c'est essentiellement une théologie biblique. Et élucider cette signification, ça veut dire aussi montrer la cohérence de ces paroles entre elles. Donc on peut dire, si vous voulez, que traditionnellement, on aurait dit ça en disant, j'ai dit tout à l'heure en commençant, le savoir théologique, il ambitionne une forme de rationalité qui est différente de la rationalité des sciences. Eh bien, justement, on tient ici cette différence, c'est-à-dire que le discours de la théologie, il est un discours sur une parole qui précède. Alors, dans le vocabulaire, disons, traditionnel, on aurait dit justement, il est un discours sur la révélation, alors que les sciences sont un discours sur la nature. Je dirais de manière peut-être plus moderne qu'il y a une condition herméneutique de la théologie, c'est-à-dire que fondamentalement, la théologie, elle est interprétation de paroles reçues dans une histoire longue, des paroles bibliques, des paroles de la tradition. Et ce premier travail, donc, qui est un travail donc, essentiellement de théologie biblique au pluriel, c'est-à-dire justement, l'attention aux paroles de la Bible, c'est aussi l'attention à la pluralité des théologies qui s'y expriment, c'est un travail qui doit se tenir vraiment à ras des textes. Il s'agit, me semble-t-il, non pas de venir projeter sur les textes des conceptions préconçues, des conceptions philosophiques, mais bien d'élucider la signification, ce qu'on pourrait dire primaire, des textes, c'est-à-dire essayer de comprendre les textes comme les comprenaient les communautés qui les ont produites. Voilà. Donc à ce niveau-là, je dirais, d'élucidation des paroles de la foi, la théologie, vous voyez, elle se situe à quelque part entre l'exégèse et la dogmatique, c'est-à-dire elle est de l'ordre de la théologie biblique. Et donc je pense qu'en Église, nous ne pouvons pas nous contenter de répéter des paroles, nous devons faire cet effort ou entendre cet effort d'élucider la signification primaire de ces paroles et de comprendre la cohérence de ces paroles entre elles. Deuxièmement, je dirais, une fois qu'on a élucidé la signification de ces paroles, la question se pose de la vérité de ces paroles. C'est Spinoza, qui est mon maître en exégèse, vous voyez à quel point je suis... J'ai un maître suspect. Spinoza, qui est un excellent connaisseur de la Bible, et qui est, vous savez, un des fondateurs de la méthode historico-critique, Spinoza dit il faut distinguer deux moments, qui est un, le moment de l'interprétation des textes, dans lesquels on éclaire le sens des textes par les textes et par le contexte historique, c'est-à-dire c'est la lecture historico-critique des Écritures. Et il y a un deuxième moment qui est le moment de l'évaluation, où on se prononce et où on statue sur la vérité des textes dont il s'agit.
Radio Alliance Plus. Vous écoutez une conférence de Didier Travier intitulée « Place de la théologie en Église ».
Alors, deuxième fonction, je dirais, de la théologie, c'est une fonction qu'on pourrait appeler apologétique, qui consisterait à montrer la vérité ou quelle vérité est présente dans ces textes, dans ces paroles de la foi, dont elle a cherché à montrer la cohérence et la signification primaire. Alors, cette recherche de la vérité des paroles de la foi, il me semble qu'elle peut prendre deux directions assez différentes. La première consiste, et c'est longue tradition à l'histoire de la théologie, au moins de ce que j'en connais, consiste à vouloir prouver rationnellement les énoncés de la foi, c'est-à-dire, au fond, à fonder les énoncés de la foi sur une métaphysique. Et les théologies l'ont fait en empruntant ce que je crois que l'expression est de Ricoeur, ce que Ricoeur appelle la rationalité disponible, c'est-à-dire ils l'ont fait en empruntant évidemment les philosophies qui étaient dans l'air du temps du moment où elles se sont constituées. C'est-à-dire qu'Augustin a essayé de fonder la foi sur, disons, avec une rationalité qui est en gros la rationalité du néoplatonisme. Saint Thomas l'a fait avec l'aristotélisme qui lui vient à travers les Arabes. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Alors, cette tentative donc, de prouver les énoncés de la foi à partir donc en les fondant sur une métaphysique, c'est appartient évidemment à cette ambition toutes les preuves, l'idée de prouver l'existence de Dieu par exemple. Je voudrais souligner que c'est pas seulement, j'ai donné l'exemple d'Augustin et Saint Thomas, c'est pas seulement quelque chose qui appartient au passé de la théologie, et c'est pas non plus seulement quelque chose qui appartient à une forme traditionnelle de la théologie. J'ai été assez stupéfait, par exemple, de découvrir qu'il y a aux États-Unis tout un courant de pensée qui s'appelle la théologie analytique. La théologie analytique, elle utilise la rationalité disponible aux États-Unis. Alors, quand on est philosophe aux États-Unis, la rationalité disponible, c'est celle de la philosophie analytique. Donc, en utilisant les outils conceptuels de la philosophie analytique, un certain nombre de philosophes cherchent à prouver la vérité du théisme, par exemple. Alors, c'est assez incongru quand on y pense, quand on pense que la philosophie analytique, chez ses fondateurs, chez des gens comme Wittgenstein ou Carnap ou Russell, elle est au contraire une sorte de police du langage qui vise à débusquer les énoncés vides de sens. Et pour eux, les premiers énoncés vides de sens, c'est les énoncés de la religion et de la métaphysique. Et donc, il y a une espèce de détournement de cet outillage conceptuel au service donc d'une théologie rationnelle, d'un théisme philosophique. Je dis donc, c'est pas seulement des tentatives du passé, et c'est pas seulement non plus des tentatives d'une théologie traditionnelle. La théologie du process, elle fait exactement la même chose. C'est-à-dire, elle entreprend de fonder ou de lier les énoncés de la foi à une métaphysique, alors qui n'est plus la métaphysique grecque, si vous voulez, de la substance, c'est-à-dire de l'être permanent, de l'éternité, donc du Dieu immuable, éternel, etc., mais qui est une métaphysique du devenir, et donc qui introduit l'idée de Dieu comme un Dieu dynamique, une création perpétuée, une ouverture permanente des possibles, etc. Mais c'est au fond formellement la même chose, c'est-à-dire de vouloir asseoir la théologie sur une métaphysique, en l'occurrence la rationalité disponible. Ici, c'est la métaphysique de Whitehead, donc le philosophe et mathématicien anglais. Et on pourrait rattacher aussi à cette première approche, donc de fonder rationnellement les énoncés de la foi, hein, toute la tentative d'articuler la foi et la science, en disant, faire une théologie qui soit un prolongement ou une extrapolation des acquis de la science de moment. Alors, je ne sais pas si ça se sent à la manière dont j'en parle, mais cette première manière de vouloir montrer vérité de la foi par la démonstration rationnelle me paraît personnellement doublement contestable. D'une part contestable parce qu'en bon kantien, je suis très sceptique à l'égard de ces sauts métaphysiques, hein, de cette prétention de l'esprit humain à pouvoir s'abstraire, si vous voulez, de l'expérience et construire des échafaudages intellectuels, d'une part, et d'autre part, il me semble que si on prouve métaphysiquement la vérité des énoncés de la foi, justement, on s'en tient dans ce champ du savoir, et quelque part, au fond, cela n'augmente en rien ou n'approfondit en rien la foi. C'est-à-dire que si la foi n'est pas de l'ordre d'une adhésion intellectuelle, ce n'est pas en prouvant les articles de foi par la rationalité qu'on va faire avancer la foi, c'est-à-dire justement développer en soi cette exis, cette disposition à la reconnaissance, à la confiance et à l'espérance. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, mais là aussi c'est soumis au débat, je pense que la théologie, elle a bien à dire, à essayer de penser la vérité des énoncés de la foi, mais non pas à la manière justement que je viens de décrire, c'est-à-dire en essayant d'asseoir les énoncés de la foi sur des métaphysiques, mais d'une autre manière, en considérant les énoncés de la foi comme des symboles, ou comme le dit Jaspers, des chiffres, et un symbole, c'est quelque chose donc, qui renvoie à autre chose que lui-même. Et donc si la foi est essentiellement quelque chose d'existentiel, alors il me semble que les symboles de la foi doivent renvoyer non pas à une métaphysique, mais à une réalité existentielle. Et donc cette deuxième manière, j'allais dire, de comprendre les vérités de la foi, ça serait donc de comprendre la signification existentielle des énoncés de la foi. Alors je donne un exemple pour que ça soit moins abstrait. Quand on dit Dieu a créé le monde, premier sens, c'est l'interprétation métaphysique. On dit voilà, on fait une métaphysique de la création, donc il y a un principe à l'origine du monde, etc. Ah, et c'est donc là que s'ouvrent par exemple toutes les preuves de Dieu par le Dieu horloger, en disant voilà, le monde a forcément une cause première, etc. Bon. On peut, donc là c'est, on interprète ça au sens d'une métaphysique qui statue sur l'origine de l'être. Voilà. Alors on peut, si on est plutôt théologie du process, dire non, c'est pas un problème d'origine de l'être, c'est du devenir, et donc on va développer une métaphysique de la création perpétuée, du dynamisme créateur, etc. On peut, si on est plutôt tendance métaphysique, prolongement des sciences, on va dire, ben, quelque part, Dieu, c'est ce qui est derrière les équations de la mécanique quantique ou c'est qui est juste avant le Big Bang. Voilà. Donc ça, c'est trois approches qui relèvent de ce que j'ai appelé, justement, prouver rationnellement les vérités de la foi. Donner la signification existentielle des vérités de la foi, ça voudrait dire, quand je dis Dieu a créé le monde, ça veut dire je nomme par là quoi ? Je nomme quelque chose de moi, c'est-à-dire je nomme mon émerveillement devant la beauté du monde, je nomme mon effroi devant la puissance de la nature, je nomme ma reconnaissance pour mon existence et pour l'existence du monde, c'est-à-dire je ne fais pas une thèse sur l'être, je nomme mon rapport à cet être. Voilà donc la perspective que je propose. C'est en gros la perspective que suit Bultmann, qui est donc d'interpréter finalement les textes bibliques en les ramenant à leur signification existentielle. Quand on dit ben, le Christ est ressuscité, l'interprétation métaphysique ou rationnelle, ça serait de dire ben voilà, c'est un événement historique qu'on va chercher à prouver, ou ça a une signification métaphysique. L'interpréter de manière existentielle, c'est dire ça vient nommer effectivement la possibilité d'une d'une transformation, d'un renouvellement dans l'existence, etc. Et à cet égard, moi je suis frappé que le texte le plus, peut-être le plus clair sur la résurrection, c'est le texte de la, du chemin de Damas, dans lequel Paul tombe de son cheval, n'est-ce pas, et reste 3 jours et 3 nuits sans voir avant de se relever. C'est une résurrection qui est décrite là, mais qui est une résurrection vécue, qui est une transformation existentielle, et pas un fait historique ou une vérité métaphysique. Voilà. C'est la formule de Bultmann, hein. Il faut enlever le faux scandale pour mettre en lumière le vrai scandale. Le faux scandale de la foi, c'est de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et croire à des choses incroyables. Et le vrai scandale de la foi, c'est justement de nous introduire dans une logique qui est une logique intempestive, une logique de opposée à la logique du monde, justement, qui est cette logique que Michel Bertrand rappelait avec un citant Mère Teresa, hein, c'est ben si vous avez faim, donnez à manger aux autres. Voilà le vrai scandale. Si vous voulez, alors, dernier point, parce que je parle beaucoup. Donc, dernière, j'ai annoncé trois... Ça va ? J'ai annoncé trois fonctions, à mon sens, de la théologie au sein de l'Église, c'est-à-dire au service de la foi. Un, donc, élucider la signification des énoncés de la foi. Deux, montrer la vérité de ces énoncés, ou quelle vérité est en eux, c'est-à-dire et chercher, à mon sens, cette vérité, non pas du côté de l'objectivité, justement, mais du côté du sujet, en bon kierkegaardien, c'est-à-dire comprendre la vérité existentielle de ces énoncés et non pas en faire des thèses sur le monde. Et troisièmement, je dirais, si les énoncés de la foi sont des symboles qui nous parle de nous-mêmes, de notre existence, alors il y a une troisième fonction de la théologie qui serait de renouveler ces symboles. C'est-à-dire qu'il me semble que toute la théologie, du moins tous les bons théologiens, ont utilisé, justement, je parlais tout à l'heure de la rationalité disponible, c'est-à-dire ils ont parlé le langage de leur temps. Ils ont essayé d'énoncer justement l'évangile dans le langage de leur temps. Et donc, il me semble que si l'évangile justement a d'abord une signification existentielle, peut-être que les mots de l'évangile, les symboles qui sont mobilisés et dont on a dégagé justement la signification existentielle, peut-être que ces symboles, ils ne sont plus tout à fait adaptés pour parler à l'homme de notre époque. Et il me semble que la tâche créative de la théologie, ça serait de recréer de nouvelles symboliques pour pouvoir justement nommer ce cœur existentiel du message de l'Évangile. Alors, il y a des tas de symboles, effectivement. Alors, c'est des notions qu'on a dans notre coin réformé, qui sont quasi passés aux oubliettes, mais je ne sais pas, quand on parle de l'expiation et de la rédemption, ça ne dit rien à personne. Parce qu'on est dans une symbolique, qui est une symbolique qui signifiait quelque chose de très, très immédiat pour les gens qui vivaient, par exemple, dans la culture juive, qui allaient faire des sacrifices régulièrement, donc ils savaient ce que ça voulait dire, le rachat, ou les gens qui vivaient dans un monde où il y a des esclaves, ils savaient ce que ça voulait dire et d'être rachetés de l'esclavage. Voilà, c'est des symboles qui ne nous parlent plus. Et donc, il me semble que... je donne cela parce qu'ils sont évidents, mais à mon sens, ça va très loin et ça va de l'ensemble de la symbolique biblique, c'est-à-dire, vous l'avez compris, pour moi, de l'ensemble du dogme. Le dogme n'est qu'un tissu de symboles, finalement. Et est-ce que la tâche de la théologie n'est pas une tâche, après avoir sa tâche herméneutique d'interpréter les textes, sa tâche apologétique de montrer quelle vérité il y a dans ces paroles, une tâche, on pourrait dire, créative ou poétique, de produire de nouveaux symboles qui soient à même de transmettre l'évangile à des oreilles contemporaines. À cet égard, moi, je trouve quelque chose de très significatif. Une des révolutions accomplies par les réformateurs, c'est d'avoir parlé la langue vernaculaire. Et donc, quelque part, il me semble que le défi de nos églises, c'est de parler la langue vernaculaire de notre temps, c'est-à-dire de parler dans une symbolique qui soit une symbolique audible pour notre époque.
Radio Alliance Plus. Vous avez écouté une conférence de Didier Travier intitulée « Place de la théologie en Église ».